la danse,
mouvement sur la ville,
les chorégraphes contemporains,
un rendez-vous au plus près de la danse avec 18 compagnies invitées.
Et on voit ce qu'est vraiment la danse. La danse.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui eh bien, en compagnie de Didier Théron, Hélène Catala et Yann Lereux. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ils sont unanimes. Alors, nous sommes là pour parler de Mouvement sur la ville. C'est la troisième édition. Mouvement sur la ville, on peut le présenter comment? Alors, si on pouvait tenter un Montpellier Danse Off en forme de provocation ou pas?
C'est une appellation qui nous froisse un petit peu. Non, pas que s'inscrire en off ce soit un problème, mais c'est que Mouvement sur la ville, c'est bien d'autres choses qu'un off. C'est non seulement un événement majeur pendant le temps du festival, mais aussi tout un travail durant l'année de trois compagnies associées à trois lieux et des artistes invités dans tous ces lieux.
Alors, ben, on est justement là pour en parler. Peut-être la distinction d'ailleurs entre Mouvement sur la ville, enfin, si je parlais de Montpellier Off, c'est parce que ça se déroule en même temps que Montpellier Danse, mais à des horaires décalés, ce qui permet effectivement eh bien, aux spectateurs de se déplacer pour voir les pièces que vous présentez. Et c'est surtout pas justement un festival parce que vous n'achetez pas les spectacles. C'est déjà une distinction qu'on peut faire.
Oui, en fait, c'est des artistes qui ont des lieux, qui choisissent de les ouvrir, de les mettre à disposition d'autres chorégraphes ou danseurs. Et l'idée que ce n'est pas un off, c'est aussi parce que dans un off, il y a parfois l'idée d'un fourre-tout. Et nous, on revendique vraiment l'idée de faire des choix. Le choix des artistes qui sont accueillis pendant l'année dans nos lieux. Donc de pouvoir prolonger ça en leur donnant la possibilité de montrer leur travail pendant le festival et aussi nos invités.
Alors comment ça se passe justement pour choisir ces invités, ces compagnies invitées, celles que vous choisissez tout le long de l'année et celles que vous choisissez pour Mouvement sur la ville, Didier Théron?
Les compagnies invitées sont des compagnies qui souvent sont accueillies pour travailler les créations chez nous. Donc là, il y a un choix qu'on fait par rapport à une esthétique ou par rapport à une démarche ou par rapport à un positionnement de la compagnie. Je pense que ça, c'est important parce que nos équipes défendent ces projets qui sont accueillis, qui vont après être présentés pendant Mouvement sur la ville. Et donc, on a besoin de croire en ce travail ou à cette attitude par rapport à la danse. Ça, c'est important pour nous. Il y a des affinités ou en tout cas une reconnaissance de quelque chose qui nous intéresse là. Donc c'est un lien artistique, je pense, essentiellement. Puis par rapport à nos lieux, c'est aussi... nos lieux sont dans la ville, ne sont pas au centre-ville, et sont au centre-ville ou pas d'ailleurs, mais on va attirer aussi dans nos lieux des gens qui sont proches, géographiquement, qui vont pouvoir venir voir des artistes différents dans ces lieux. Donc ça, c'est très important. Donc on a cette conviction de défendre et de se rapprocher de nouveaux projets, de nouvelles visions de la danse.
Alors quand on regarde bien la nationalité des chorégraphes, on voit Allemagne, Corée, on voit Cameroun. Afrique du Sud aussi, voilà, et Tunisie. Donc comment on les rencontre finalement? On a l'impression que la danse quand même, ça circule à travers le monde. Comment on rencontre ces compagnies?
En fait, les danseurs bougent beaucoup. Déjà, ceux qui ont la chance de tourner vont rencontrer d'autres chorégraphes, d'autres danseurs à cette occasion. Et puis, il y a quand même l'idée que la danse est un langage qui n'a pas de frontières, puisque tout le monde va pouvoir apprécier un spectacle de danse, même s'il ne maîtrise pas les codes qui ont précédé à sa chorégraphie. Donc il y a quand même un brassage très fréquent des danseurs, des chorégraphes, et qui permet tout d'un coup d'avoir des coups de cœur et de se dire peut-être tel artiste à Montpellier, si je ne l'invite pas, il n'aura pas la chance de montrer ce qu'il fait. Et je crois que dans Mouvement sur la ville, ce qui fait aussi la caractéristique de ces invitations, c'est qu'il y a des compagnies à des niveaux très différents de leur histoire et des projets qui peuvent être appelés émergents, des chorégraphes pour qui c'est les premières expériences, et d'autres, par contre, très aboutis. Et c'est là où le fait qu'ils soient d'une autre culture ou simplement d'un autre pays va amener tout d'un coup une envie de faire partager ça pour nous.
Alors les danseurs voyagent beaucoup, effectivement. J'imagine que les compagnies qui viennent de Corée du Sud, c'est vous, Yann Lereux, qui les avez invités.
Alors la compagnie qui vient de Corée du Sud, celle qui vient de Tunisie et d'Allemagne aussi, donc ça, comme le disait Hélène, hein, le danseur est très mobile, le chorégraphe aussi. On lui souhaite que ça, d'ailleurs. Et c'est à la faveur souvent de ces déplacements-là, de ces tournées, qu'on arrive à... qu'on rencontre des projets qui nous intéressent, des œuvres qui nous séduisent ou nous choquent. Et puis c'est dans ces moments-là que se font les choix de partenariat ou les choix d'invitation. Ça peut être une demande qui nous est faite, enfin en tout cas pour nous, ça peut être des demandes qui nous sont faites, ou ça peut être aussi des propositions. La dernière en date, notamment, celle, je reviendrai peut-être tout à l'heure, celle de Nawel Skandrani qui est en Tunisie. C'est une proposition que j'ai faite à Nawel, c'est une personne que je connais depuis longtemps, elle a travaillé avec Fadel Jaibi qui est dans l'UIN d'Avignon, là très bientôt, un metteur en scène tunisien. Je l'avais rencontré sur ce projet-là. Et c'est quelqu'un qui a fait pendant la révolution tunisienne une pièce en 10 jours. Qui est une sorte d'opus, un cri, une sorte de cri libératoire, comme ça, où elle parle de ses années Ben Ali. Elle a été, elle, directrice des ballets nationaux de Tunisie à l'époque, avant que ce ne soit fermé et mis sous clé par l'ancien ministère de la Culture. Et elle a fait donc cet objet, qui est une œuvre vraiment majeure pour moi dans son parcours, et pour l'œuvre pour laquelle elle travaille avec un musicien belge. Et puis elle va utiliser la danse, tout son savoir-faire de danse, toute son expérience de danse, mais surtout le mot. J'ai trouvé cette pièce très touchante, parce qu'à la fois, parce qu'on est dans cette actualité, et qu'elle nous a tous pris de plein fouet, et on l'a prise en pleine tête, hein, nous ici, de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis aussi parce qu'il y a des moments très drôles aussi, hein, des anecdotes, donc certaines sont drôles, certaines sont attristantes, et c'est un tel reflet de cette réalité de la Tunisie de maintenant, un peu entre désarroi et enthousiasme. Donc je pense que pour moi, c'est une pièce majeure vraiment à voir dans les pièces que nous accueillons à l'atelier.
Alors, est-ce que la danse contemporaine, justement, permet cette réaction par rapport au monde actuel tel qu'il bouge à l'actualité? Enfin, là, on fait référence à la Tunisie. Est-ce que c'est vraiment ça, une des forces, en tout cas, de la danse contemporaine?
Je ne sais pas si c'est spécifique à la danse contemporaine, puisque le théâtre, aujourd'hui, est très réactif.
Mais si on reste à l'intérieur de la danse.
À l'intérieur de la danse, oui, sans doute contemporaine, parce que par définition, la danse contemporaine est la danse d'aujourd'hui. Après, ce qui se passe aussi, c'est que les formats légers sont par essence plus mobiles et permettent aux artistes d'être très réactifs. Et c'est un peu aussi notre chance dans Mouvement sur la ville d'offrir des fenêtres pour des formats, un, deux danseurs, un vidéaste, un plasticien. Il y a quelque chose qui peut permettre justement cette réaction à l'événement.
Et justement, dans les spectacles, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de pluridisciplinaire? Est-ce qu'il y a des spectacles qui mettent ça en avant, la vidéo, le son? Alors vous, Hélène Catala, il y a des capteurs infrarouges, hein, dans la pièce que vous allez présenter, hein, qui font réagir le son, c'est ça, avec le danseur?
Voilà, donc le solo qui s'appelle « La jeune fille que la rivière n'a pas gardée », qui a été créé en novembre, donc qui n'est pas complètement réactif à l'actualité, qui est plutôt un point sur l'idée de la transmission, comment j'avais envie de transmettre peut-être ce que j'ai dans le corps à une jeune danseuse. Du coup, on s'est attaqué un peu à l'idée de l'adolescence et à la voir comme une traversée. Et on a choisi de traverser un dispositif de son et d'image qui figure un petit peu cette traversée chaotique de l'adolescence. Donc des capteurs infrarouges, des petits radars qui interagissent avec le mouvement de la danseuse. Donc un solo de 45 minutes.
Alors eux, ils ont décidé de faire une pièce avec des cartons de déménagement. Ils sont deux, c'est un duo. C'est Chloé Déhu et Christophe Brombin.
La compagnie SCO.
Alors comment est née la pièce Désinvolte?
Alors Désinvolte, en fait, au départ, est partie de l'envie de faire deux solos sur une même thématique. Et en fait, avec Chloé, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure d'avancer dans les solos, finalement, on avait envie de faire un duo. Donc du coup, on a conservé une partie des solos, mais qui sont beaucoup plus resserrés dans le temps.
On voulait faire un diptyque, donc présenter deux solos où un homme et une femme parlent de la même chose, mais l'interprètent d'une manière différente, qui soit singulière à elle-même. Et en fait, à fur et à mesure de travailler ensemble et en présentant des fins de travaux, on s'est rendu compte qu'on avait aussi envie d'être en même temps sur le plateau. Et en fait, on a abandonné l'histoire du diptyque et on a avancé sur plutôt un duo. On est ensemble sur le plateau, avec une partie où on conserve un petit moment du solo qu'on avait travaillé avant.
Alors, ce qu'on voit aussi hein, sur la scène, donc c'est ce duo, ce couple aux prises avec des cartons. Il y a une importance du décor, en tout cas, il y a une interaction avec le décor.
On s'en sert de plusieurs façons. Au début, pour nous, c'est un petit peu ces cartons qui nous font naître, qui nous font arriver sur scène. Puis petit à petit, en fait, on a voulu transformer le décor comme nos êtres aussi se transforment souvent. Ouais, ça nous permet de passer, c'est comme un peu dans un appartement. Les cartons nous permettent de passer de la salle de bain à la cuisine. Et voilà, c'est des murs, c'est des pierres, c'est un matériau changeant comme nos humeurs et notre relation aussi.
Ouais, c'est des boîtes aussi, finalement. C'est des boîtes donc avec toute la partie visible de la boîte et la partie cachée de la boîte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces boîtes. Donc c'est un peu aussi la thématique qu'on a travaillé tous les deux, c'est-à-dire comment finalement ces deux personnes cohabitent avec leurs facettes visibles, séduisantes, et leurs facettes cachées qui est pas forcément belle, qui peut même être effrayante.
Alors parlons de la musique, parce que vous avez choisi une bande-son, hein, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les pièces. Alors la vôtre, la bande-son, elle est très hétérogène. Pourquoi ce choix finalement ?
En fait, la musique traduit aussi beaucoup la matière du corps et crée aussi une ambiance. Et après, comme on considère qu'on travaille sur quelque chose qui se transforme et qui est différent, qui n'est pas toujours la même chose, on a voulu avoir plusieurs univers musicaux pour traduire ces singularités qui sont très différentes et qui peuvent être même opposées. Voilà pourquoi l'univers est musical et disparate.
On n'est pas toujours avec la même humeur, on n'est pas toujours avec les mêmes émotions. Et du coup, voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a une diversité de propositions musicales.
Il y a toujours une part de monstruosité dans le couple.
Moi, j'ai l'impression que déjà, le monstre, il est à l'intérieur de soi, déjà avant d'être dans le couple. Donc, j'ai l'impression que déjà la cohabitation, elle se passe déjà avec soi-même. C'est comment on vit avec finalement ces angoisses, ces travers ou ces choses qu'on cache. Ouais, y a toujours un rapport un peu au paraître, c'est-à-dire quand on ne connaît pas des gens, on a toujours envie de se montrer d'une façon agréable ou on a toujours envie de montrer la meilleure partie de soi-même. Et dès qu'on commence à habiter avec quelqu'un, avec sa femme ou son homme, au fur et à mesure du temps qui passe dans la réalité quotidienne, on commence à vraiment découvrir l'autre, à s'apercevoir des défauts de l'autre. Et donc, en fait, ça traite un peu de ça. C'est-à-dire, finalement, comment l'autre nous aide à dépasser nos défauts ou à en faire des qualités. Et inversement.
Nous sommes avec Didier Théron, Hélène Catalo et Yann Lheureux pour parler donc de Mouvement sur la ville, la troisième édition. Bien, on va parler de la proximité finalement avec le spectateur. Là aussi, il y a une abolition des frontières, ou en tout cas les frontières bougent, hein, parce que ça se passe dans vos lieux qui sont alors on ne va pas dire petits, mais qui sont à l'échelle humaine.
Des lieux qui sont grands par leur fonction, parce qu'on les occupe quand même toute l'année autour d'enseignement, d'activités, de création, de recherche aussi. Donc des lieux qui sont, moi, il me semble, majeurs hein, dans le panorama de ce qui se fait dans cette ville, dans cette région. Et ensuite, effectivement, la particularité de cet événement qu'on coordonne, c'est d'accueillir des compagnies, d'accueillir des spectateurs dans une relation très très proche avec les œuvres, avec les artistes, où on n'est pas dans des principes de gradinage éloigné avec un plateau sur lequel il faudrait l'artiste monte et puis au dernier moment le noir se fait et taladi talala. Donc on est vraiment dans un rapport immédiat, ce qui se solde souvent à la fin des spectacles par un verre à boire, un rapport très direct, très immédiat avec les artistes. Et ça, je pense que c'est un maillon ou un endroit très très important où nous avons, il me semble, ensemble envie d'être.
En revanche, vous êtes donc trois chorégraphes qui avaient l'habitude de jouer dans les théâtres et ils peuvent être grands, très grands. Justement, ça vous fait du bien parfois de retrouver cette proximité, vraiment ?
C'est pas que ça nous fait du bien, c'est que je pense qu'il y a une relation qui est avec la danse qui est très intéressante quand le spectateur et le danseur sont sur le même sol pratiquement. D'ailleurs, le centre chorégraphique est construit comme ça. Bagué a voulu le studio Bagué comme ça, avec un gradinage très proche très petit d'ailleurs, assez petit, et une proximité très grande. Par contre, un espace de danse assez grand. Donc ça, c'est une relation à la danse qui a changé et que quelque part, dont on profite avec cette proposition de mouvement sous la ville. Et je crois qu'on a une autre relation avec l'artiste, avec la danse, avec cette communion, entre guillemets, bon, cette chose qui se passe dans le vivant avec la danse.
Alors, on précise d'ailleurs, hein, parce qu'on va parler de vos trois lieux, c'est l'atelier, la salle 3 et l'espace Bernard Glandier.
Voilà.
Dans trois quartiers différents, quoique ouais. L'atelier n'est pas très loin de la salle 3, me semble-t-il.
On peut dire l'atelier, c'est Rondelet, voilà. Ouais. La salle 3, c'est Figuerolles, hein, c'est pas tout à fait.
Oui, c'est bon, d'accord. Il y a des frontières, donc.
Bernard Glandier, c'est la Paillade.
Et c'est la Paillade,
mousson,
voilà.
La mousson, la Paillade, voilà.
Où vous êtes, Didier Théron. Alors, on va peut-être rentrer dans la programmation de ce mouvement sur la ville. Qui veut commencer par parler bien d'un spectacle invité?
Alors moi, je commencerai par le spectacle de Stéphanie Thirsch. La couverture de notre programme, on a utilisé pour ça une photo de son spectacle. Donc en fait, c'est une performance qu'elle va faire autour de ce spectacle parce qu'il ne rentrait pas dans sa forme aboutie. Et donc c'est une conférence dansée qu'elle va faire autour de Under Green Ground. Je trouve que c'est un travail absolument, moi, qui m'a ravie, à la fois par quelque chose de très actuel, très, comment dire, audacieux dans son écriture, sa composition. On est entre la performance et des moments vraiment d'écriture, et puis une interprète hors pair qui, à la fois, porte dans son corps toute une histoire très, on va dire, fine de la danse et à la fois est capable de débouriffer tout ça d'un seul passage. Donc moi, j'ai vraiment envie d'insister sur ce spectacle-là parce qu'il me semble que Stéphanie Thirsch sera présente dans les années qui viennent, dans les scènes importantes.
Donc c'est à la salle 3, Under Green Ground, donc conférence dansée, c'est le mercredi 22 juin. À 23h et pour une durée de 40 minutes, on a affaire quand même à des pièces courtes.
Oui, ce sera essentiellement des formats courts. Ça n'excédera jamais une heure, je pense, sur l'ensemble de notre programmation, sauf des soirées particulières. Mais c'est aussi l'idée que les spectateurs auront pu auparavant voir d'autres, soit présentations dans les autres lieux, soit suivre les spectacles de Montpellier Danse.
I am in Perda, running puppy fat out of my body. In a holy word, not noticing a giant Buddha's foot right in front of a kukai ad on a sign stating, do drugs or drugs will do you. I'm a pariah, a notion of total war grows slowly in my mind, but it's still in its infancy. Kindly waiting in a shadowy romantic thought, told my originators all this would occur in various parts. This is first, I've got a third and a fourth and a fifth and a sixth. What about all tarrying parts? I'm waiting. Still waiting and counting and counting with my hands on my lips, drowning out, chanting. I am still the protagonist, still the protagonist, still the protagonist, still the protagonist, I am 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 still the protagonist, still the protagonist, still the protagonist, I am still the protagonist. On the 31st, I will.
Divergence FM.
I am in Prada. Pariah. I am in pride. harder. I'm a pariah. I'm waiting. I'm waiting. I'm waiting. I'm waiting. I'm
se jeter au micro pour parler eh bien, d'un autre spectacle qu'il a invité.
Donc à l'atelier voilà, le 23 et le 24 juin, nous avons souhaité inviter Kim Nam-jin, qui vient de Corée du Sud. C'est un interprète chorégraphe avec lequel j'avais envie de travailler sur une des créations de la compagnie, ça n'a pas pu se faire, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Busan, une petite ville au sud de la Corée du Sud. Je faisais partie d'un jury, hein, ils sont très friands là-bas de concours de danse, etc. Et il avait remporté donc ce concours de danse avec un duo magnifique, un interprète qu'on retrouve sur les scènes internationales et qui a pour moi la particularité à la fois d'être dans la pudeur qui sied aux Coréens du Sud, peut-être au peuple asiatique parfois, et en même temps dans 0,2 seconde qui peut retourner sa veste et se retrouver dans une part complètement extravertie. Et je trouve que ce lien-là, c'est quelque chose qu'il exprime avec bonheur et qui est peut-être justement assez une sorte de reflet de cette culture coréenne. On les appelle d'ailleurs les Italiens de l'Asie là-bas.
Alors il paraît, moi c'est des choses que j'ai entendues, hein, alors je vous le livre brut de décoffrage, il paraît que les meilleurs danseurs sur les scènes actuelles sont les Coréens. Alors est-ce que...
C'est vrai pour d'accord, le hip-hop d'accord. Déjà, ils ont remporté l'année dernière le Battle of the Year encore. Et c'est très vraisemblable, tout style de danse confondu, parce qu'ils ont c'est assez paradoxal dans ce pays, c'est qu'il y a en fait un système d'enseignement pédagogique qui est très très au point, donc des universités, des outils vraiment fabuleux. Et puis par contre, une fois que les danseurs sont formés, que les chorégraphes sont avérés, il y a plus de fonds, il n'y a pas d'aide vraiment de support, de subvention pérenne pour que les compagnies puissent continuer à créer. Donc c'est une sorte de chose assez paradoxale où l'État investit tellement dans la formation pour au final laisser partir ses joyaux sur les scènes internationales. Et on retrouve dans plein de compagnies notoires hein, maintenant dans le monde entier des danseurs coréens, effectivement.
Dans votre dernier spectacle, il y avait un Coréen.
Exactement, Young Min-soon.
Qui racontait une histoire terrible d'ailleurs.
Et réel,
voilà, on n'en dit pas plus. Alors, la suite du programme, donc c'est à l'atelier Story of Bee, jeudi 23 juin, 15h-23h, et vendredi 24 juin à 15h, voilà, donc il ne vient pas pour rien.
Et d'autant moins pour rien qu'en fait, il y aura deux propositions ces mêmes jours, donc c'est un plateau partagé entre Nam-jin et la compagnie qui présentera Instinct. Donc une pièce, à l'origine un septet qui a été créé à Busan, justement, en Corée du Sud. Une pièce qui a été reprise avec une équipe tunisienne, une équipe française, lors de l'inauguration de la ZAT, il y a peu de temps. Et là, l'idée, donc, c'est de retravailler cette pièce, cet opus, pour un projet qui va se développer sur les deux prochaines années. Donc voilà, c'est l'opportunité pour les spectateurs montpellérains et autres de découvrir la cuisine de la compagnie en ce moment.
Voilà, donc création 2011, où on peut peut-être faire référence au titre. L'instinct, ça fait référence à l'animal, on a perdu cette animalité, c'est quelque chose comme ça.
Oui, c'est à la fois... Il y a une très belle citation là, que je mets dans les programmes, donc je l'ai apprise par cœur, de Victor Hugo, qui dit que l'instinct, c'est l'âme à quatre pattes. Je trouve ça assez beau, donc ça fait référence effectivement à l'animalité, à la part impulsive de chacun d'entre nous, et comment dans cette cité moderne, faite de béton, etc., l'instinct survit, et surtout, parce qu'il s'agira pour cette pièce de travailler sur un dispositif de scène numérique, comment l'instinct survit, notre instinct survit à ces nouveaux modes de communication que sont Internet et d'autres médias qui nous propulsent dans un espace puis un autre en si peu de temps.
Alors on va continuer à dérouler le programme de ce mouvement sur la ville. Peut-être vous, Hélène Catala, un autre choix ?
Oui, moi je vais parler de Désiré Desvitz, qu'on va accueillir deux fois, donc le lundi 27 et le mardi 28. Donc Désiré Desvitz, c'est aussi une danseuse africaine, mais qui vient d'Afrique du Sud. Et elle aussi est dans ses questionnements. Un petit peu de quelle femme est-elle, mais aussi quelle danseuse est-elle, puisque Désirée est métisse. Elle a un parcours d'interprète assez exceptionnel, puisqu'elle a été plusieurs fois récompensée pour sa carrière d'interprète en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, elle se tourne vers la France pour trouver des moyens de créer dans sa propre compagnie. Et là aussi, c'est un solo où elle se met en scène avec de la vidéo et pas mal de fantaisie, avec une théâtralité tout à fait personnelle. Une quête de là aussi, comment dans un même corps se bousculent tous ces désirs contrariés, toutes ces influences diverses et toute cette richesse intérieure. Donc un très beau travail qu'on... On est très fiers d'accueillir et peut-être aussi qu'il va démarrer, puisqu'on a cette envie toutes les deux de pousser plus loin des projets pour la suite entre Montpellier et puis Durban, donc en Afrique du Sud.
Donc on le reprécise, un mouvement sur la ville, c'est vraiment un échange, des rencontres. Et donc ce spectacle « With This Benef My Skin ». C'est ça ?
Oui.
C'est à la salle 3, lundi 27 juin, donc en deuxième semaine à 15h et mardi 28 juin à 15h également. On va peut-être faire un tour du côté de l'espace Bernard Glandy avec vous, Didier Théron.
Oui, oui. Alors nous, on commence la programmation de Mouvement sur la ville. On commence que le 1er juillet et tout va se faire à 15h. Voilà, on fait à 15h et on fait chaque fois à 15h deux compagnies, deux projets qui sont présentés, deux projets qui sont en général 30 minutes chacun. Moi, j'ai pas vraiment fait j'ai pas de choix vraiment sur les cinq groupes qu'on invite. Bon, il y a le 1er juillet, il y a Mathieu Tanguy qui fait un solo qui s'appelle Japan. C'est un solo assez radical que on a vu, on a aimé cette radicalité. C'est un peu une nouvelle tendance où pas mal de choses sont mêlées dans son travail, différentes influences. Il travaille par exemple sur de l'agonie. J'ai trouvé ça très intéressant, très, très curieux. Son travail est très physique aussi, très physique, très pointu. Donc voilà, c'est un très beau solo qui va être présenté. Ce 1er juillet aussi, moi je vais passer d'abord... le 2 juillet, on retrouvera Mathieu Tanguy avec Rita Sioffi. Rita Sioffi, elle est très connue, elle est connue sur la ville de Montpellier et toute notre région. Rita fait un duo avec Maglone Vidal. Et c'est un très beau travail aussi entre ces deux femmes, l'une musicienne, l'autre danseuse, avec leur histoire, avec la danse et la musique. Et j'ai trouvé aussi assez pertinent ce projet. Donc voilà, on a Rita. Ensuite, il y a le troisième jour, le 3 juillet, il y a Rita qui revient avec aussi un partenariat avec double après-midi avec Link Company. La Link Company, c'est une compagnie que j'ai rencontrée en Australie. C'est une compagnie de jeunes danseurs. Qui font partie de l'université WAPA, c'est-à-dire c'est l'université des arts à Perth, qui est une grande université des arts qui forme des danseurs, et il y a une jeune compagnie à l'intérieur qui est assez intéressante, et je voulais les accueillir ici. On les accueille une seule fois, donc le 3 juillet. Et ensuite, le 4 et 5 juillet, on accueille deux jeunes chorégraphes, donc Valdemar Krzyszowski et Brian Campbell, qui sont aussi deux chorégraphes qui présentent, Valdemar présente un solo qui s'appelle « Le preux dans la peau du tigre », et Brian Campbell présente « The Quadruped Protagonist », c'est un duo. Ce sont deux jeunes chorégraphes aussi très pertinents, très spéciaux dans leur façon de faire et très... Une recherche très, très particulière. Et je crois aussi, là aussi, une forme de radicalité. Donc ça, c'est un peu là-dessus qu'on a fait nos choix, quoi. Un peu, nos coups de cœur, ils viennent un peu de ces écritures singulières et cette façon de ne pas forcément se couler dans ce qui se fait, mais de suivre un peu la voie. Et je finirai par juste la soirée que nous organisons le 1er juillet et qui est une soirée Solidarité Japon. Solidarité Japon parce que je pense que ce qui s'est passé au Japon était quand même assez grave, hein, ces derniers mois. On était tous touchés par ça, et que la danse, eh bien, elle doit beaucoup au Japon, et que la danse contemporaine aujourd'hui qui s'est construite, hein, en Europe, eh bien, elle a été aussi influencée par le Japon qu'elle n'a été par les États-Unis. Et je pense que c'était important de faire quelque chose par rapport à ça. Vous savez qu'au centre chorégraphique, il y a deux studios. Il y en a un qui s'appelle Dominique Bagué et l'autre qui s'appelle Yano. Donc Yano, c'est un danseur japonais qui a beaucoup, beaucoup influencé la danse française et beaucoup de chorégraphes français. Donc on voulait faire un peu ce rappel. Et avec l'association Solidarité Japon 34, on a organisé cette soirée où ma compagnie présentera une pièce qui s'appelle Harakiri, qui est une pièce très...
physique, hein, physique. Vous parliez de danseurs physiques.
Physique, mais aussi c'est une construction très, très radicale sur le propos, et qui, je trouve, m'a été une partie inspirée par ce qui s'est passé, ce que je connais du Japon, pas par les événements, mais parce que je connais du Japon, et qui est une pièce que je voulais remontrer. Il y a aussi des performances qui auront lieu, Nippon, Japon, ça dépend, par des danseurs japonais qui vivent à Montpellier, qui travaillent à Montpellier. Et il y aura aussi pas mal d'événements cette soirée-là. C'est le 1er juillet à 18h.
Alors, on écoute Rita Chioffi pour le spectacle E2L, Entre deux langues.
Entre deux langues, ça veut dire qu'on fonctionne justement sur deux langages différents, la musique et la danse. Et on essaye de voir un petit peu comment, même si on ne parle pas la même langue, on arrive à se comprendre.
Alors, les deux langues, donc, c'est d'un côté de la danse et puis de l'autre côté de la musique.
Oui.
De Maglone Vidal.
Oui, Maglone Vidal est saxophoniste. Et ce qui est intéressant à l'origine de ce projet, c'est que Maglone, elle a fait le conservatoire comme pianiste. Et qu'une fois qu'elle a eu son diplôme, elle a abandonné le piano et s'est intéressée surtout au saxophone. Donc elle joue différentes sortes de saxophones. Et puis c'est une improvisatrice. C'est quelqu'un qui vraiment poursuit la musique contemporaine en improvisation et joue beaucoup... avec Joël Léandre, avec d'autres personnes comme ça qui sont dans cette veine-là. Et donc ça m'intéressait beaucoup de travailler avec elle, justement, parce que le fait d'être quelqu'un qui est dans l'instant, je trouvais ça intéressant. Ça permettait une certaine liberté au sein même du spectacle. C'est-à-dire que dans le spectacle, il y a une construction, évidemment, mais à l'intérieur, on peut quand même... saisir un peu l'atmosphère, notre état, et jouer, voilà, sur des petites nuances plus spontanées, probablement.
Il y a deux éléments qui jouent aussi, c'est l'enfance. Donc une espèce de trajectoire qu'on lui prêtait qui a été contrariée. Donc elle était au conservatoire, elle jouait du saxophone, on lui prêtait une autre carrière. Vous rêviez, quand vous étiez en Italie, d'être une danseuse classique. Vous avez d'ailleurs commencé par être danseuse classique. Et finalement, vous avez épousé le contemporain à l'âge de 20 ans, je crois. Hein, c'est ça.
Même un peu plus tard.
Donc il y a ça aussi qui est présent dans la pièce, cette contrariété.
C'est pas une contrariété, hein, c'est un parcours. Mais c'est ça qui était intéressant, c'est que quelque part, moi et Maglone, on a eu un peu un parcours similaire. C'est-à-dire on est parti dans des études classiques, l'une comme l'autre, et puis à un moment donné, on s'est senti étroite. dans ce chemin-là, et on a eu besoin d'expérimenter autre chose, de casser un peu les codes et de s'inventer une autre façon d'être artiste. Donc moi, c'était plus espérer d'interpréter Gisèle. Elle, c'était pas jouer, je sais pas, une sonate de Chopin. Voilà, donc c'est vrai que la question qui pose le spectacle est... À partir de cette culture-là qui nous a formés, qui nous a aussi forgés, qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné, on a envie un peu de s'inventer son propre langage. Donc, entre deux langues, c'est apprendre dans différentes directions, parce que c'est entre ce qu'on m'a appris et ce que j'ai envie de réinventer. C'est entre deux langues, c'est aussi moi que je vis entre l'italien et le français, évidemment. Et voilà, donc c'est vrai que le spectacle il démarre hein, sur une sonate de Bach. Et une fois qu'on a écouté ça, on se dit qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire après une telle merveille, une telle perfection ? Et pourtant, on a envie de faire. Donc voilà, on pose la question, malgré tout, est-ce qu'il existe un verbe qui est personnel ? Une façon de s'exprimer qui est que la mienne, que la sienne, que celle d'un artiste.
Yann Lereux, pour le reste des spectacles, dans ce mouvement sur la ville, on vous écoute.
Donc on accueillera aussi le 25 juin, ils viendront une seule fois, donc c'est un one shot, hein, comme on dit, ils viennent d'Allemagne. L'un est américain, Clint Lutz, l'autre est allemand, Tommy Noonan, et ce sont deux danseurs-performeurs assez fabuleux qui se sont côtoyés pendant longtemps sur les scènes berlinoises et autres, qui ont décidé ensemble de faire un duo qui s'appelle Brothers. Et ils vont dans ce duo, que je trouve vraiment assez intéressant, travailler sur un aspect assez figuratif pour moi, qui est celui d'une relation entre frères. Et en même temps, on frôle l'abstraction, parce qu'on perd ce sens-là au fur et à mesure de l'écriture. Et ils arrivent tour à tour à être complices, ennemis, sous une forme que je ne dévoilerai pas, mais assez radicale, pour reprendre les propos de Didier, sur toute une durée d'une pièce qui dure 40 minutes. À la fois un être artistique et quasiment sportif, je dirais.
Alors ça, c'est le samedi 25 juin, à 15h, donc toujours à l'atelier.
À l'atelier. Quand on parle de l'atelier, en fait, cette année, nous allons à la fois travailler les spectacles sur l'atelier et sur le gymnase Blanchard, qui est à 200 mètres en face de l'atelier. Donc c'est une possibilité que nous a offerte la mairie de pouvoir investir ce lieu pendant le temps de mouvement sur la ville.
Divergence FM 93.9. Confidence and ignorance approve me. Define my day today. I've tried so hard to shut it down, lock it up, gently walk away. Appetites and impulses confuse me. Decide my day today. Now my body says it's over. Shaking hands move to tear my face away. And when the night comes, I'm fiending like a pyro. And I know stable's my survival. When there's music all around me, and I haven't got a single word to say. And then the light shines, it's gleaming like a bottle. And Lord knows I tackle it full throttle. May I illuminate the nameless, faceless saints of these odd and open graves. Do you
defend my love forever.
Alors, il reste des spectacles, donc, toujours à l'atelier.
Le spectacle de Peter Nkogué, donc, qui vient, lui, du Gabon, qui navigue entre France et Gabon, un danseur effroyable. Hein, il a remporté, il a été lauréat d'un un grand festival africain qui s'appelle Danse Afrique Danse. Et il va, à la faveur donc, de ce spectacle-là, nous présenter une nouvelle création. Donc, ce sera, je crois, la première en France, donc, de cette nouvelle création de ce danseur et chorégraphe qui commence à faire parler de lui dans la région, déjà.
Alors ça, ce sera la première semaine de ce mouvement sur la ville, dimanche 26 juin à 15h et 23h.
Pour terminer à l'atelier, donc le jeudi 30 juin et le 1er juillet, nous aurons le plaisir d'accueillir Emmanuel Grivet, qui est un vieux complice, enfin vieux, c'est pas du égard à son âge, hein, mais quoique peut-être aussi, un vieux complice parce qu'on a travaillé très longtemps, en tout cas 2-3 ans ensemble sur des formes d'improvisation, c'est ce qui nous a lancé l'un et l'autre dans nos compagnies respectives sur les processus de création à partir d'improvisation. Et il revient nous faire la grâce d'un solo, Transparence Blanc, et qui est un solo très, très, très sensible, où il travaille sur une projection vidéo sur son corps. Et ensuite, il va nous faire une forme performative où il va mettre en jeu une partie du public. Donc, j'en dis pas plus pour garder le secret. Mais voilà, je pense que ça va être un moment à la fois sensible et en même temps percutant.
C'est quelque chose que vous pouvez apprécier, ça, hein, de prendre quelque chose du public. Hein. Alors, vous n'êtes pas le seul à le faire, mais c'est quand même quelque chose que vous appréciez particulièrement. Hein.
Oui, ce sont des démarches qui me touchent, en tout cas qui m'intéressent, moi, de voir à quel point le spectacle peut être à la fois spectaculaire et en même temps expérimental. Donc comment on peut amener le spectateur, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, Mouvement sur la vie, c'est aussi amener les gens à côtoyer peut-être différemment les artistes. Et puis dans la construction même des spectacles, je suis très intéressé par essayer de mettre à l'épreuve cette relation avec le spectateur.
Alors lui, il fait du hip-hop, il s'appelle Ibrahim Diam, il fait partie de la compagnie du Nord au Sud, et il propose Dakness à l'atelier, on l'écoute.
Dakness, on va dire que c'est le résultat bon. Comme tout chorégraphe, en fait, on a le désir de créer, de raconter quelque chose, en fait, qui retrace un peu notre vécu, notre histoire. Donc c'est un rapport aussi avec mon histoire. Donc à travers Dakness, j'ai voulu parler en fait des murs, des barrières, en fait, tout ce qui peut freiner, tout ce qu'on met entre nous, dans nos relations, le mur en tant que barrière palpable, en fait, et en tant que barrière non palpable. Voilà. Parler du mur aussi sous différentes formes, parler du mur comme support d'art, d'accord, en référence au graffiti ou à d'autres arts qu'utilisent les peintres, tout ça. Donc en référence aussi au mur de Berlin et ce qu'il est devenu, parce qu'il est devenu aussi une galerie d'art. Donc voilà, c'est le spectacle d'Acnès, c'est un spectacle qui traite de tout ça en fait. Voilà, avec trois personnages, trois danseurs interprètes, dont moi-même qui suis le chorégraphe. Et ces trois personnages évoluent sur la scène et dans l'histoire avec un rapport très particulier les uns envers les autres. Un rapport de soutien, un rapport aussi de confrontation. Donc pendant tout le spectacle, il y a des territoires qui se dessinent, des compromis qui s'inventent. Donc voilà, c'est Dacnès. La danse sera totalement hip-hop, voilà. Donc le hip-hop dans la danse n'est pas connue. En fait, ce qu'on connaît, c'est le breakdance, tout ce qui est un peu spectaculaire, gymnastique, tout ça. Et en fait, quant à ma danse, moi, je suis spécialisé dans le pop-in et les danses debout. Et donc, on verra des aspects du hip-hop qui ne sont pas forcément médiatisés et donc que certains pourraient prendre peut-être pour une danse qui est hors du hip-hop. Mais c'est bien de la danse hip-hop dans tout le spectacle.
C'est quoi justement la distinction qu'on peut faire entre votre danse et le breakdance ?
La différence entre le breakdance et ma danse, qui fait aussi partie du hip-hop, c'est que le breakdance, ça se danse essentiellement au sol. Donc on a un contact réel au sol, que ce soit les pieds et les mains. Alors que ma danse se danse essentiellement debout et bien sur les deux jambes et bien ancrée dans le sol. Donc bon, la danse hip-hop, c'est quand même une danse qui est très au sol. Mais on voit cette différence entre la danse debout, comme son nom l'indique, qui est essentiellement debout, même si on a quelques contacts au sol à des moments donnés. Mais le breakdance, c'est vraiment essentiellement au sol. C'est une recherche d'une certaine agilité au sol qu'on ne retrouve pas peut-être dans d'autres danses.
Alors, on parlait du hip-hop, la musique, elle sera hip-hop ou pas ? Vu qu'il y a votre compositeur qui est ici, on peut peut-être lui demander.
Moi, en fait, je m'appelle Franck Dimena et je m'occupe des musiques des spectacles d'Ibrahim. Et en fait, la musique, non, on ne peut pas parler spécialement de musique hip-hop. C'est surtout une musique en fait, qui est là pour souligner le spectacle, souligner la danse et tout aussi tout l'apport vidéo. Mais certaines fois, oui, elle porte bien les danseurs, ce qui leur permet aussi de danser chacun dans leur style, quoi. Et surtout, j'écoute, c'est beaucoup Ibrahim qui me dirige dans ce que je fais. Donc, il me dit ce dont il a besoin, ce qu'il a envie d'entendre, ce qui l'aide à développer ses mouvements. Et puis, j'essaye de suivre ses indications et de faire du mieux que je peux pour correspondre à ce qu'il veut, quoi. Voilà.
C'est jamais évident quand on est jeune chorégraphe de faire ses preuves, surtout avec une première pièce. J'imagine qu'on est attendu au tournant.
On est un peu perdu et puis la pression est forte aujourd'hui. Il me semble que des années avant, oui, mais on avait plus de temps. On avait un petit peu plus de temps. On pouvait peut-être faire quelques essais-erreurs. Aujourd'hui, il faudrait être performant très tôt. Et peut-être des endroits comme Mouvement sur la Ville peuvent être un petit peu plus accueillants, un petit peu moins difficiles pour les jeunes chorégraphes.
Oui, Didier Théron.
Oui, je pense que c'est des possibles qui sont moins dangereux que de se lancer sur le Festival Montpellier Danse. Mais c'est vrai que c'est important de proposer ces choses-là, et surtout de proposer des lieux de travail, enfin des lieux de travail et lieux pour montrer, voilà. Parce qu'en fait, quand l'artiste n'est pas vu, il n'existe pas. Voilà, c'est difficile, quoi. Donc là, on est vu. On est vu par quelques personnes. Et quand on est vu, bien, on commence à exister et à pouvoir développer les choses. Donc ça, c'est important, ça.
Ce qui est aussi particulier, je crois, qu'on se rend pas forcément compte de l'extérieur, c'est qu'une compagnie qui crée, il y a des danseurs qui viennent. Alors parfois, ils sont un peu nombreux, là, sur certaines formes. Mais il y a plein de choses autour, et en particulier le matériel. Moi, là, je vois la salle 3 est pleine de cartons, d'objets en tout genre, des lampes, des bouts de costumes, des choses. Et quand il y a des studios mis à disposition et qui circulent beaucoup, on peut chercher sur son corps. Mais là, ce qu'on en offre aussi comme possibilité aux compagnies, c'est de se poser avec tout leur matériel, de nous envahir quelque temps. Et comme ça, le travail peut vraiment maturer. Il y a quelque chose de... Parce qu'une création lumière, c'est vrai qu'on peut le faire à l'arrache en un jour et demi. Mais quand on est un jeune chorégraphe, on a besoin d'essais-erreurs vraiment longtemps avec quelques projecteurs. Et c'est vrai que nos résidences le permettent.
Alors pour le coup, parce que ça c'est une question qui vient quand on vous écoute, hein, s'il n'y avait pas vos lieux, enfin que vous prêtiez mes métiers à disposition. Qu'est-ce qui se passerait pour ces jeunes chorégraphes? Et d'ailleurs, Mouvement sur la ville, est-ce qu'il est né parce que vous avez rencontré ce type de manifestation ailleurs, ou c'est venu comme ça, avec des discussions?
C'est venu de notre expérience, parce que nous-mêmes, on a aussi, dans nos studios, montré des choses pendant le festival, ou développé ce genre de choses nous-mêmes. Donc après, cette expérience que nous-mêmes nous avons développée, ces propositions, on les a partagées. Voilà, je crois que c'est comme ça, c'est très simple. Et on s'est aperçu de ce besoin aussi, et c'est vrai que le fait aussi, on propose de montrer pendant ce temps du festival de Montpellier Danse, qui est un très grand festival, il faut le savoir, c'est un des plus grands festivals de danse contemporaine dans le monde. Donc je crois qu'il y a beaucoup de producteurs qui sont là, beaucoup de monde qui peut voir, qui a envie de voir le travail, qui a envie de découvrir. Donc ça, c'est intéressant d'être là à ce moment-là, quoi.
C'est d'autant plus intéressant que Montpellier Danse est un grand festival, mm-hmm. qui a pas mal de pièces, de toute façon, qui sont complètes. Donc ça veut dire mm-hmm. aussi, enfin, que ça permet à certains, certains spectateurs peut-être frustrés, enfin, de découvrir autre chose avec Mouvement sur la ville.
Oui, en tout cas, de compléter peut-être aussi une autre vision de choses oui. différentes, d'autres angles d'entrée dans la danse. Et on a aussi l'avis de certains professionnels qui viennent exprès de loin, souvent, hein, pour voir les spectacles de Montpellier Danse, et qui sont peut-être... qui vont vouloir essayer de rentrer un peu dans d'autres questionnements avec ces propositions-là.
Je crois qu'on va surtout ouvrir les portes de nos studios à des spectateurs curieux. Ça, c'est important. Curieux, puis qui vont pouvoir aussi... être bénéficiaire d'une offre pas chère, donc il faut le dire aussi, hein, Mouvement sur la ville, c'est aussi la possibilité pour...
C'est important, ça.
C'est important, c'est aussi militant, je dirais, à un moment donné, de pouvoir offrir la possibilité à une petite famille de venir voir un spectacle sans se dire que le budget spectacle du mois va y passer. Et puis du coup, ça peut-être favorise le fait de pouvoir prendre des risques comme ça, d'entrer et de pousser la porte des studios.
Voilà, parce que pour 5 euros, hein, ça c'est le prix de tous les spectacles. Voilà, donc somme modique que vous partagez, vous, organisateur, avec la compagnie, c'est bien ça? C'est comme
non,
ça que ça
c'est
fonctionne
c'est une participation ou... frais, c'est-à-dire c'est une billetterie qui est à la charge de la compagnie que nous invitons, donc qui s'occupe de cette billetterie-là, et toute cette petite recette, même pas reversée, parce qu'il la garde en fait. Donc directement, il l'empoche, ils en font ce qu'ils veulent.
Divergence FM 93.9. We'll be right back.
Alors, il y a quelque chose que Montpellier Danse n'a pas, c'est le flash mob. Montpellier Danse n'a pas de flash mob.
Et oui.
Et vous, Yann Lereux, on vous voit donc dans une vidéo sur Internet en train de gigoter. Rappelons ce qu'est un flash mob.
Flash mob, hein, c'est l'abréviation de flash mobilisation. Donc, ce sont des événements qui, en général, courent par le net, hein, circulent par le net. J'en ai un en mémoire d'un événement qui avait été fait à la place du Trocadéro à Paris, où il était convenu que les gens se retrouvent à telle heure et à tel minutage précis. Les gens concertés s'immobilisaient pendant une minute et reprenaient le cours de leur vie au bout de ces une minute-là. Donc, il n'y a pas de préparatif. Imaginez, vous vous trouvez place du Trocadéro, vous marchez, tout d'un coup, il y a une centaine de personnes qui s'immobilisent dans des actions diverses et qui, une minute après, vont repartir, reprendre le cours de leur vie.
Ça a déjà été fait place de la Comédie. Hein, mais l'immobilisme, c'est facile à gérer.
Voilà.
Hein, on dit aux gens, vous bougez pas, c'est bon. Mais vous proposez quand même autre chose.
Il nous a semblé que dans Mouvement sur la vie, c'était important de faire un flash move. Là, on a dévié un peu le mot, du coup. Et de pouvoir proposer toute personne d'être spectateur, mais plutôt que d'être dansé, d'être un peu dansant. Donc la proposition, elle est très simple, c'est de se retrouver à 17h30 devant le Café de l'Esplanade. Pour ça, c'est possible d'aller sur le blog de Mouvement sur la ville ou sur le site de la compagnie Yann Lereux pour aller voir les vidéos pour l'apprentissage de cette petite chorégraphie. C'est très simple, il y a un refrain qui est chorégraphié, le couplet est improvisé et on se retrouve donc tous ensemble pour danser pendant, ça dure 5 minutes, je pense qu'on va le faire deux fois de suite.
Donc c'est à 17h30, c'est le samedi 25 juin, ce sera devant le Café de l'Esplanade. Et donc, ça devrait marquer les esprits. Vous avez mobilisé autour de vous, déjà ?
Oui, on a déjà Didier et Hélène, on se sont fait aussi le relais. Didier sera là, d'ailleurs, il dansera, il sera bien en jaune.
C'est la moindre des choses, non ?
Non, moi, c'est au bureau, les filles sont en train de répéter. Donc, l'administratrice et la chargée de production de la compagnie qui sont en train d'apprendre la chorégraphie. Voilà. On va voir ce que ça donne.
C'est un événement qui est intéressant, je dirais, dans ce qui va s'exprimer le jour J à 17h30. Mais c'est aussi une action intéressante parce qu'elle offre un autre mode de communication via Internet déjà, qui s'adresse peut-être à d'autres populations, d'autres générations. Et puis intéressant aussi parce que ça nous permet, nous je sais qu'à l'atelier, nous menons des ateliers, donc tous les jeudis soirs, des pratiques d'improvisation. Et le dernier atelier, l'objet de ce dernier atelier, c'était entre autres d'apprendre le flash mob. Donc on s'est retrouvés dans la rue, c'est la vidéo qui court sur le net là, où ils étaient enchantés de se retrouver dans cette expérience-là. Et eux-mêmes vont se faire ambassadeurs, tout comme j'imagine toutes les personnes qui travaillent chez Hélène ou chez Didier, vont se faire les ambassadeurs de cette petite chorégraphie, ou en tout cas de l'information. Donc c'est un mode d'information et un mode de relation, je trouve, qui est vraiment, vraiment intéressant.
Alors on le rappelle, hein, le flash mob, ça marche mieux si on est habillé comme on est habillé chaque jour. Hein.
Voilà, pas
besoin de...
Voilà, la nudité est acceptée, mais sinon...
En tout cas, merci Didier Théron, merci Hélène Catala, merci Yann Lereux d'avoir présenté donc, ce mouvement sur la ville. C'est la 3e édition et ça se déroulera du 22 juin au 5 juillet. C'est à l'atelier, c'est à l'espace Bernard Glandier, c'est à la salle 3 et Divergence FM est partenaire.